أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور مذہب
certaines personnes croient que la religion leur refuse leur liberté ou que la religion leur impose des restrictions. Or, Allah, dans le Saint-Coran, déclare « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » C'est-à-dire qu'Allah ne vous a imposé aucune difficulté en matière de la religion. Le but de la charia est d'alléger le fardeau de l'homme. Voir le but de la charia est de le protéger de tout malheur et de tout danger. Ainsi, dans cette déclaration, Allah explique que l'islam qui a été révélé, l'islam qui a été révélé pour vous, ne contient aucun commandement qui puisse vous mettre en difficulté. Tous les commandements, du plus petit au plus grand, sont porteurs de grâce et sont porteurs de bénédiction. L'opinion de l'homme est erronée, la parole d'Allah ne peut l'être. Si en tant que créature d'Allah, nous refusons de suivre ses commandements, nous allons nuire à nos personnes. Si l'homme n'use pas de son intelligence, eh bien, Satan, qui dès le premier jour a fait la promesse d'égarer l'humanité, eh bien, Satan le jettera dans le gouffre de la destruction suite à la promesse qu'il avait faite. Si nous voulons nous prémunir de ses attaques, il faudra accepter les commandements d'Allah l'exalté. Certains faits sont apparemment insignifiants. Or, avec le passage du temps, leurs conséquences sont extrêmement désastreuses parce qu'on les avait considérés comme insignifiants. Ainsi, un croyant ne doit jamais mépriser aucun commandement divin. Nous constatons aujourd'hui que la majorité des gens se sont écartés de la religion. Et c'est pour cette raison que leur norme du bien et du mal est sans cesse changeant. À titre d'exemple, nous constatons aujourd'hui que les hommes et les femmes se dénudent au nom de la liberté et au nom de la mode. Le signe du progrès est de se vautrer dans l'indécence au grand jour. La pudeur est non existante. Il est évident que cela aura de l'effet sur nos garçons et sur nos filles qui résident ici parmi ces gens. Et jusqu'à un certain point, ils sont en train de subir cette influence. Certaines filles qui atteignent l'adolescence m'écrivent pour me demander pourquoi l'islam préconise le port du voile et des vêtements modestes. Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir de chez nous sans la burqa, sans le voile, sans porter un long manteau et rien qu'en portant des jeans serrés et une simple blouse? Pourquoi ne pouvons-nous pas porter les mêmes vêtements que les filles libres d'Europe? Premièrement, sachons que nous devons mettre en pratique les préceptes de la religion si nous souhaitons nous y cramponner. Si nous annonçons que nous sommes musulmans et que nous nous cramponnons aux préceptes de la religion, nous allons devoir respecter ses commandements et nous allons devoir appliquer les commandements d'Allah l'Exalté et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que la pudeur fait partie de la foi. Ainsi donc, le port des vêtements modestes ainsi que la ségrégation entre les sexes sont autant de moyens pour protéger notre foi. Si les populations des pays développés ont mis fin à la pudeur au nom de la liberté et du progrès, c'est parce qu'elles se sont écartées loin de la religion. Une jeune femme Ahmadie qui a accepté le Messie premier l'Islam a aussi fait la promesse de préférer la foi à ce monde. De même, un jeune homme Ahmadie, un homme Ahmadie, une femme Ahmadie qui ont tous accepté le Messie premier l'Islam promettent de préférer la foi à ce bas monde. Et l'on pourra accorder cette préséance à la foi lorsqu'on va conformer sa conduite aux préceptes de la religion. Nous sommes aussi chanceux que le Messie promis l'Islam nous a expliqué tout cela en détail. En évoquant le sujet de l'impudeur et de l'indécence, il déclare dans un endroit: à l'instar de la société européenne, les gens insistent à vouloir abolir toute forme de décence, mais cela n'est point approprié. Cette liberté accordée aux femmes est la racine de la débauche et de la dissipation. Voyez un tant soit peu l'état moral de ces pays où règne cette liberté. Si cette liberté et cette impudicité ont accru leur chasteté et leur pureté, eh bien, j'accepterai mes torts. Or, il est plus qu'évident que de grands dangers guettent les jeunes hommes et les jeunes femmes qui se côtoient dans un environnement libre et mixte. On est disposé à lancer des regards lascifs et à être emporté par ses passions charnelles. En dépit du port du voile, l'on commet transgression et actes de débauche. Mais que se passera-t-il si on accordait la liberté? Les hommes sont à l'instar des chevaux débridés, ils ne craignent pas Dieu, ils sont sceptiques quant à l'existence de l'au-delà. Et ils ont transformé leur plaisir matériel en leur Dieu. Il faut en premier rectifier l'état moral avant d'accorder cette liberté et de permettre cette mixité. Si l'on arrive à rectifier l'état moral des hommes, et que ces derniers arrivent au minimum à maîtriser leur passion charnelle, l'on pourra par la suite débattre sur la nécessité ou non du port du voile et de la séparation entre les hommes et les femmes. Insister dans le climat actuel sur la liberté et sur une relaxe des règles de la modestie reviendra à placer les chèvres devant des lions. Pourquoi ces gens ne réfléchissent-ils pas sur cette question? Qu'ils usent tout au moins de leur conscience. Les hommes sont-ils à ce point réformés qu'on puisse placer devant eux des femmes dévoilées? Les maux que nous voyons dans la société d'aujourd'hui attestent de la véridicité de chaque parole du Messie premier alayhi salam. Il incombe à tout garçon, à toute fille Ahmadi, à toute femme et à tout homme Ahmadi de rehausser leur niveau de leur pudeur et de tenter de se protéger des bassesses de la société. Au lieu de questionner la nécessité des règles sur la modestie islamique ou d'être victime de complexes d'infériorité à cet égard. Ou de demander pourquoi ne pouvons-nous pas porter des jeans serrés et des blouses. Il incombe aux parents, et en particulier aux mères, d'informer leurs enfants dès leur jeune âge à propos des préceptes de l'islam et de les avertir concernant les maux qui sévissent dans la société. C'est dans ce cas que nos générations futures respecteront les préceptes de la religion et c'est là qu'ils seront à l'abri du poison de ces sociétés prétendues développées. En vivant dans ces sociétés, les parents doivent accomplir un grand jihad afin de lier leurs enfants à la religion et afin de protéger leur chasteté. Pour ce faire, les parents vont devoir servir d'exemple. Une jeune femme m'a écrit récemment pour m'informer qu'elle a fait de grandes études et qu'elle espère trouver un bon emploi dans une banque. Elle m'a posé la question suivante. Pourrais-je travailler là-bas dans cette banque, même s'il est interdit de porter le voile et de se vêtir selon les règles islamiques, s'il est interdit là-bas de porter un long manteau? Quand je sortirai du travail, eh bien, je vais porter de nouveau le hijab. Elle a ajouté, j'ai entendu que vous, le calife, vous avez dit que les femmes Ahmadi employées peuvent enlever leur burqa ou leur hijab sur leur lieu de travail. Cette jeune femme a tout au moins la décence d'ajouter que si vous me l'interdisez, je n'accepterai pas cet emploi. J'évoque ce sujet car de nombreuses jeunes femmes posent ces questions. Dans certaines situations, j'ai dit que les femmes médecins peuvent ne pas porter la burqa traditionnelle ou le hijab. À titre d'exemple, si elle opère, elle porte généralement un coiffe ou un masque et des vêtements qui sont amples. En sus de cela, les femmes médecins peuvent porter le voile. À Rabwa, il y avait plusieurs médecins. Il y avait la docteure Fahmida, nous l'avions toujours vue voilée. Il y avait aussi la docteure Nusrat Jahan, une femme qui respectait le principe du voile minutieusement. Elle a terminé ses études ici, en Angleterre, et elle venait à Londres tous les ans afin d'accroître ses compétences professionnelles. Et elle portait le voile tout le temps, et elle respectait, plus que ce qui était nécessaire, le principe du voile. Personne ne lui a jamais fait des remarques par rapport à son voile ici, ni même au cours de son travail, et cela n'a eu aucun effet sur ses compétences professionnelles. Elle a aussi participé à de grandes opérations chirurgicales. Donc, si nos intentions sont bonnes, des voies conformes aux principes de notre religion s'ouvrent à nous. Ainsi, j'avais aussi dit à celles qui vont dans la filière de la recherche que si on a parmi elles qui ont les capacités de travailler dans cette filière, eh bien, allons le droit de porter la tenue demandée dans des laboratoires. Elles ont le droit de ne pas se voiler car dans ces endroits, dans ces laboratoires, on demande à porter une coiffe et de toute façon, dès qu'elles vont sortir de ces laboratoires, elles vont devoir porter le voile demandé par l'islam. Travailler dans une banque n'est pas un métier par le biais duquel l'on pourra servir l'humanité. C'est pour cela qu'il n'est pas autorisé d'enlever le voile pour tout autre métier ordinaire. Encore moins pour celui dans lequel l'on porte des vêtements de tous les jours en appliquant du maquillage et non une tenue spécifique. N'oublions jamais qu'afin de préserver sa chasteté, il va falloir porter des vêtements modestes. Et porter des vêtements modestes fait partie de l'aparda, de ce principe de modestie islamique. Si l'on commence à être laxiste concernant le port du voile, petit à petit, nous commencerons à faire des changements dans notre tenue modeste en cherchant des prétextes. Et l'on s'imprégnera des couleurs de cette société qui est en train de se diriger à grande vitesse vers l'indécence. Le monde tente déjà d'écarter les croyants de leur religion, d'écarter en particulier les musulmans de leur religion. En Suisse, une fille a intenté un procès afin de contester sa participation à des cours de natation mixte. Elle n'était pas d'accord avec son école qui l'obligeait à le faire. Elle a demandé de participer à des cours de natation exclusivement pour des filles. Les juges de la Cour des droits de l'homme, qui se disent être les protecteurs des droits de l'homme, ont dit que c'est certainement ton droit de vouloir nager séparément, mais ce n'est pas là un problème aussi grave afin d'annoncer un jugement en ta faveur. À chaque fois qu'il est question de l'islam et de la modestie des femmes, les organisations qui se disent protectrices des droits de l'homme trouvent des excuses. Les Ahmadis doivent être encore plus vigilants dans cette situation. Si les écoles obligent les petites filles de participer à des cours de natation mixte, alors elles doivent se couvrir, elles doivent mettre la tenue adéquate, en d'autres termes, la burkini, afin que, dès leur jeune âge, ces enfants sachent que nous devons porter des vêtements décents. Les parents également doivent expliquer à leurs enfants que les garçons et les filles doivent nager séparément. On doit faire des efforts en ce sens. Les forces anti-islamiques sont en train de faire de leur mieux afin que les enseignements et les traditions de l'islam disparaissent au sein des musulmans. Ces forces sont en train d'essayer de faire disparaître la religion au nom de la liberté d'expression et au nom de la liberté de conscience afin que personne ne les accuse de l'avoir fait sciemment et qu'elles soient considérées comme sympathisantes. À l'instar de Satan, ces organisations lancent des attaques enrobées de douceur. Mais nous ne devons jamais oublier qu'à cette époque, le travail de la renaissance de l'islam a été confié à la communauté du Messie premier l'Islam. Il va falloir que nous fassions des efforts en ce sens. Il va falloir que nous nous évertuions en ce sens. Pour cela, nous allons devoir endurer souffrance et peine. nous n'allons pas nous battre, mais nous allons devoir agir avec sagesse contre ces forces. Si nous acceptons une de leurs conditions qui a trait à nos préceptes religieux aujourd'hui, eh bien, petit à petit, on va imposer des sanctions sur nombre de nos pratiques et de nos enseignements. Nous devons mettre beaucoup d'accent sur la prière afin que Dieu nous donne la force de combattre ces attaques sataniques et que Dieu nous vienne en aide. Si nous sommes établis sur la vérité, et certainement nous le sommes, eh bien, notre victoire sera certaine un jour. Les enseignements islamiques auront le dessus dans le monde. Le Messie promis à l'Islam déclare dans un endroit: la vérité est accompagnée de courage et de bravoure, tandis que le menteur est peureux. Celui qui mène une vie dans laquelle il vautre dans le péché et dans l'impureté vit toujours dans la peur et il ne peut mener de combat. Il ne peut établir sa véridicité avec courage et bravoure à l'instar d'un véridique et il ne peut pas prouver sa chasteté. Réfléchissez un tant soit peu sur les relations d'ici-bas. Toute personne à qui Dieu a accordé quelque statut éminent a toujours eu des jaloux. Toute personne jouissant d'un statut élevé se fait des jaloux qui se cramponnent à lui. Il en est de même dans le monde spirituel. Satan est l'ennemi de la réforme. L'homme doit donc garder son casier vierge et il doit rester en règle vis-à-vis Dieu. Il faut qu'il plaise à Dieu, et il ne doit craindre personne et ne doit se soucier de personne. Protégez-vous des situations susceptibles de vous attirer le courroux divin. Or, cela est impossible sans l'aide de l'invisible et sans la grâce de Dieu. L'effort de l'homme ne servira à rien tant que cet effort n'est pas accompagné de la grâce divine. Khulikal insanu darifa. L'homme a été créé faible. Il est rempli de défauts. Il est entouré de difficultés. Il faut donc prier afin qu'Allah nous accorde la possibilité pour accomplir de bonnes œuvres et qu'il nous accorde son aide de l'invisible ainsi que sa grâce. Ainsi, nous devons convaincre le monde par l'entremise des prières et pour ce faire, nous allons devoir établir un lien très ferme avec Dieu. N'oublions pas que les autres religions ne sont pas éternelles. Elles ont rempli les exigences de la réforme de leur époque respective et ensuite ces religions ont disparu. C'est pour cela que leurs livres religieux ont connu beaucoup d'interpolations et de changements. Or, l'islam a été protégé jusqu'à présent, et l'islam est une religion éternelle. Les enseignements du Saint-Coran sont valables jusqu'au jour dernier. Ainsi, il faut mettre en pratique les préceptes du Saint-Coran sans être victime d'aucun complexe d'infériorité. Et il faut que nous-mêmes nous restions fermes dans la pratique des préceptes de l'islam. Et il faut aussi que nous informions les autres que leurs actes vont à l'encontre du désir de Dieu et que ces actes vont les mener vers leur destruction. L'islam n'est pas une religion qui impose des restrictions illégitimes à l'homme. Les enseignements de l'islam sont empreints d'indulgence là où l'indulgence est nécessaire. Par exemple, parfois, des patientes doivent être examinées par des médecins hommes. Il n'y a pas de restrictions sévères en ce qui concerne le port du voile dans ce contexte. L'objectif principal, c'est de sauver la vie humaine et de l'aider à surmonter les difficultés. C'est cela l'objectif de l'islam. C'est pour cette raison que l'islam a permis de consommer la chair d'un animal déjà mort ou la chair du porc lorsqu'on est contraint de le faire, mais c'est uniquement pour sauver sa vie. De même, l'alcool est utilisé dans certains médicaments. Mais cette force satanique veut que nous marchions sur une autre voie. Et cette force satanique a pour objectif de faire disparaître les limites de la religion et de faire disparaître entièrement la religion. Et nous, les Ahmadis, nous allons devoir faire un djihad contre cela. Et cela sera possible uniquement si nous accordons préséance aux enseignements islamiques sur toutes choses. Et si nous nous prosternons devant Dieu, afin que l'aide divine puisse nous accorder le succès. Aucun djihad avec l'épée ne sera mené à l'époque du Messie promis, alayhi salam. Il y aura au contraire un djihad pour notre nafsa, le djihad de notre réforme. Je m'adresse aux musulmans qui habitent dans ces pays développés. Je m'adresse à eux en particulier et je m'adresse en général à tous les musulmans. Je m'adresse à tous les musulmans Ahmadis. Ils doivent tenter d'atteindre de hauts statuts afin de témoigner leur fidélité envers leur pays, afin de présenter tout sacrifice pour leur pays et pour contribuer à tout progrès de leur pays. Lorsqu'il en sera ainsi, eh bien, on va pouvoir faire taire les puissances sataniques, car elles verront que, au lieu de comploter contre le pays et la patrie, ce sont bien les musulmans qui sont en train d'établir les véritables exemples pour faire progresser leur pays et leur peuple. Nous allons devoir convaincre l'État et ces gens que si nous suivons nos enseignements, ou si nous nous attachons à quelque chose conformément à nos préceptes religieux, eh bien, les gouvernements et les tribunaux n'ont pas à y interférer, sinon cela va mener à des tensions. Et cela va créer une scission entre les autochtones et les immigrés. De plus, ceux qu'on appelle des immigrés sont dans la plupart des cas dans ces pays depuis deux, voire trois générations. Certes, si certains causent un quelconque tort à leur pays, ou s'ils ne sont pas fidèles envers le pays, et s'ils sont en train de propager le mensonge et la haine, alors le gouvernement a toute la légitimité de les arrêter et de les punir. Mais ils n'ont pas le droit d'empêcher les musulmans de suivre leurs préceptes religieux en disant que si vous le faites, eh bien cela signifie que vous n'êtes pas intégré dans ce pays. Nous, les Ahmadis, nous devons toujours avoir à l'esprit que cette époque est une époque très dangereuse. Satan est en train de lancer des attaques puissantes de toutes parts. Et si les musulmans, et en particulier les musulmans Ahmadis, les hommes, les femmes, les jeunes Ahmadis, s'ils ne se cramponnent pas aux préceptes religieux, eh bien, nous n'avons pas de garantie que nous serons épargnés. Nous serons encore plus condamnables aux yeux d'Allah, car d'une part, nous avons compris la vérité, le Messie premier l'Islam nous l'a expliqué, mais malgré cela, nous n'avons pas suivi ses préceptes. Si nous voulons être sauvés, eh bien, tout en vivant dans ce monde, nous devons avoir une confiance ferme dans ces enseignements de l'islam. Ne croyez jamais que le progrès de ces pays développés est le garant de notre progrès et que ces progrès sont les garants du progrès de notre vie et qu'en cela se trouve notre salut. Le progrès de ces pays développés est déjà arrivé à son apogée. Lorsqu'on observe l'état de leurs mœurs, lorsqu'on observe leur action immorale, eh bien, nous constatons que cela est en train de les mener vers le déclin. Et les conséquences se sont déjà manifestées. Ils sont en train de provoquer la colère d'Allah. Ils sont en train d'inviter leur destruction. Dans ce contexte, par sympathie pour l'humanité, il nous incombe de les sauver en leur montrant le droit chemin au lieu de devenir comme eux. Si leur réforme n'est pas faite, ce qui semble être très difficile au vu de leur arrogance et de leur éloignement de la religion, alors le futur progrès du monde sera entre les mains de ces peuples qui auront de bonnes mœurs, de ces peuples qui auront une considération pour les religions. Comme je l'ai dit précédemment, nous, les Ahmadis, en particulier les jeunes parmi nous, nous devons prêter attention aux enseignements d'Allah l'Exalté au lieu d'être affectés par les choses de ce monde. Et au lieu de suivre le monde, il faut inciter le monde à nous suivre. J'ai commencé à parler du voile et des habits. J'aimerais ajouter à ce sujet, et avec désarroi, que certains se demandent si le respect du voile est la seule chose importante pour le progrès de l'islam et de l'ahmadiyya. Certains disent que cet enseignement est obsolète à présent, et que si nous souhaitons affronter le monde, alors il faut que nous abandonnions ces préceptes. Qu'Allah nous en préserve. Ces gens doivent savoir que si nous suivons les gens de ce monde, et si nous vivons comme les gens de ce monde, eh bien, au lieu d'affronter le monde, nous allons devenir comme eux. Nous, cela, peu à peu, seront de pure forme, où les autres actions pieuses ne seront que de forme. Et petit à petit, ces préceptes vont disparaître, ces pratiques vont disparaître. Il ne faut point considérer insignifiant aucun enseignement d'Allah. C'est quelque chose dont nous devons tous avoir peur. Pour le progrès de l'islam, tous les enseignements d'Allah et de son messager sont importants. La sévérité au sujet du respect du voile ne concerne pas uniquement les femmes. Les limites imposées par l'islam ne sont pas uniquement à destination des femmes. Cela concerne à la fois les hommes et les femmes. Allah, l'exalté, a enseigné d'abord aux hommes la méthode concernant la pudeur ainsi que la modestie. Il a déclaré à cet effet « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ » قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dit aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Assurément, Allah est très conscient de ce qu'ils font. Allah a enseigné tout d'abord aux hommes de restreindre leur regard. Pourquoi cela? Cela est important pour leur pureté, tout comme l'est dit « ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ». Si une personne n'est pas pure et chaste, elle ne pourra s'approcher de Dieu. Avant de parler du voile aux femmes, Dieu a demandé aux hommes de se protéger de toute chose qui puisse éveiller leur passion. Le fait de regarder les femmes avec de grands yeux, de se mélanger avec elles, de regarder des films obscènes, le fait de parler aux femmes qui ne vous sont pas permises via Facebook ou par d'autres moyens, ne permettent pas de préserver la pureté, la chasteté. C'est pour cette raison que le Messie Prophète Islam a prodigué à maintes reprises des conseils détaillés à cet effet. Il déclare : telles sont les paroles d'Allah. Par ces paroles très détaillées, il a établi des limites spécifiques pour encadrer nos dires, nos actes, nos faits et gestes. Et il nous a enseigné comment être respectueux envers l'humanité, comment nous comporter de manière pure. C'est Dieu lui-même qui a mis l'emphase sur le fait de protéger nos yeux, nos oreilles, nos langues et nos autres organes. Il dit « Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum » C'est-à-dire que les croyants doivent restreindre leur regard, ils doivent préserver leur partie intime des personnes non permises et doivent se préserver de regarder des mauvaises choses, d'entendre de mauvaises choses et doivent se préserver de mauvais actes. C'est cela qui leur permettra de se purifier intérieurement, c'est-à-dire qu'ils seront protégés de différentes émotions qui peuvent s'éveiller en eux. Car souvent, ce sont ces organes qui éveillent les émotions internes et qui éveillent des instincts sauvages. Maintenant, regardez quelles sont les méthodes enseignées par le Saint-Coran pour se protéger des personnes qui ne nous sont pas permises et à quel degré elles ont été détaillées, que les personnes honnêtes doivent contrôler leurs yeux, leurs oreilles, leurs parties intimes et qu'ils doivent se préserver de toutes ces voies qui mènent à l'indécence. Évoquant le thème de la maîtrise du regard, le Messie promis l'Islam déclare « Imposer des limites à son regard et le diriger uniquement vers ce qui est licite » est décrit dans la langue arabe par l'expression « Rad al-Basar ». C'est-à-dire « Regarder les yeux mi-clos, les objets illicites au regard, préserver son regard de cela et regarder ce qui est permis. Voilà le sens de Rad al-Basar dans la langue arabe. Le Messie promis l'Islam ajoute, il n'est pas dans l'intérêt d'une personne pieuse qui veut garder son cœur pur de laisser errer librement son regard dans toutes les directions tel un animal. Il lui est indispensable de cultiver l'habitude de Rad al-Basar dans ses rapports sociaux. Et c'est une attitude bénie qui transforme les pulsions naturelles de l'homme en de hautes qualités morales, sans pour autant le contraindre dans sa vie sociale. Cette qualité a été qualifiée de ihsan ou de chasteté. En expliquant ce sujet davantage dans un autre endroit, le Messie promis l'Islam explique que le croyant doit éviter d'ouvrir grand les yeux pour regarder directement les visages des femmes non permises et éviter les situations susceptibles d'attiser la lascivité. Il faudra éviter de regarder librement un visage d'une personne appartenant à l'autre sexe librement, ni avec lascivité, ni sans lascivité. Au cas contraire, l'on est sûr de trébucher par la suite. C'est-à-dire que la pureté absolue ne sera point garantie par un regard débridé. Tôt ou tard, l'on commettra un impair et le cœur ne sera point pur tant que le regard ne l'est point. L'on ne pourra point atteindre le stade immaculé que l'on doit viser en tant que chercheur de vérité. Ce verset nous apprend qu'il faut aussi préserver tous ces accès corporels par lesquels le mal puisse pénétrer. Ces accès qui ont été évoqués dans ce verset sont les parties intimes, sont les oreilles, le nez et la bouche. Voyez l'éminence de cet enseignement. Il n'accentue point de manière illogique un aspect et présente un juste équilibre. Tout lecteur déduira promptement de la lecture de ce verset qu'il est essentiel de maîtriser le regard afin de ne pas commettre d'impair, afin que les hommes et les femmes ne sombrent pas dans la tentation.
Bas ye hai
Les préceptes de l'islam imposent des restrictions aux hommes en premier. Il est enjoint aux femmes de se vêtir chastement après avoir pris ces précautions. Comment pouvons-nous affirmer que le voile islamique n'est pas nécessaire dans ces sociétés où l'indécence s'étale au grand jour? Le non-respect du port du voile et ses amitiés sont en train de causer de grands torts et nous devons prendre de grandes précautions à cet effet. L'on en déduit que s'il est interdit aux femmes de nager en compagnie des hommes, il est aussi interdit aux hommes de nager en compagnie des femmes. Ces restrictions ne s'appliquent pas uniquement aux femmes, elles concernent aussi les hommes. En demandant aux hommes de baisser leur regard devant les femmes, on a ainsi protégé l'honneur de ces dernières. Ainsi, chaque aspect des préceptes de l'islam est imbu de sagesse et éradique tout mal. Lors de la dernière Jalsa Salana de l'Allemagne, lors de mon discours adressé aux femmes, j'ai évoqué la distinction entre les hommes et les femmes, leurs obligations respectives, leurs tâches respectives. J'ai aussi évoqué les droits des femmes. Une Allemande qui était présente a commenté après avoir écouté le discours dans son intégralité. Elle a dit « Je croyais auparavant que l'islam usurpait les droits des femmes. Mais aujourd'hui, après vous avoir entendu, j'ai compris que l'islam évoque de manière plus détaillée l'honneur et le respect de la femme et œuvre davantage à cet égard. Ainsi, il n'est point nécessaire à aucune fille Ahmadi, à aucune femme Ahmadi, à aucun homme Ahmadi d'être victime de quelque complexe d'infériorité. Ce sont les préceptes de l'islam qui établiront la paix dans le monde et qui ramèneront les gens vers Allah. Un jour, le monde comprendra qu'il n'y aura pas d'autre issue que de réfléchir à propos des préceptes de l'islam et de suivre les préceptes de l'islam. Après avoir enjoint aux hommes de baisser le regard et d'honorer les femmes, il est enjoint aux femmes de baisser aussi leur regard et de se vêtir décemment. Les détails concernant ces préceptes ont été mentionnés. Allah leur dit qu'elles auront du succès si elles vont suivre ces injonctions. Le port du voile et la pudeur sont les signes de votre succès, déclare Allah. C'est cela la clé de votre succès ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi donc, Allah déclare. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et dit aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leur partie intime, et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté ce qui est apparent de soi, et qu'elles tirent sur leur poitrine leur voile, dont elles se couvrent la tête, et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et séparée, accepter à leur mari, à leur père, à leur père, ou les pères de leur mari, ou à leur fils, au fils de leur mari, ou à leur frère, au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à leur femme, ou à ceux que leur main droite possède, ou à de tels serviteurs mâles qui sont dépourvus de vils désirs, ou aux jeunes enfants qui n'ont pas encore aucune conscience des parties intimes des femmes, et qu'elles ne marchent pas avec une telle démarche que des aspects de leur beauté qu'elles dissimulent normalement soient révélés. Et tournez-vous vers Allah tous ensemble avec repentir aux croyants, afin que vous puissiez réussir. C'est en baissant son regard et en portant le voile que la femme protégera son honneur et sa chasteté. Hommes et femmes, tous deux doivent baisser leur regard. Dans les pays développés, la norme de la protection de l'honneur et de la chasteté a changé. Si l'homme et la femme ont des relations avec le consentement de leurs partenaires respectifs, ceci n'est pas qualifié d'adultère. S'ils ont des aventures extra-conjugales sans le consentement de leurs partenaires, ceci est qualifié d'adultère. Face à de telles bassesses morales, le croyant doit beaucoup prier et faire beaucoup d'efforts afin de jouir de la protection divine. Selon les pourfendeurs de l'islam, on usurpe les droits de la femme en lui demandant de porter le voile et de suivre les voies de la modestie. Et les filles immatures et influençables sont parfois influencées par cela. Les règles de la modestie islamique ne visent pas à emprisonner la femme. Le but n'est pas d'enfermer la femme entre les quatre murs de la maison. Certes, il faut préserver la chasteté. Le Messie premier, l'Islam, déclare dans un endroit l'on s'attaque aujourd'hui aux règles islamiques concernant le port du voile et la pudeur. Or, ces gens ignorent que cela ne signifie point l'emprisonnement. Il s'agit d'une barrière afin que les hommes et les femmes étrangers ne se voient pas. L'on évitera de commettre des impairs lorsqu'il y aura cette ségrégation. Toute personne douée de bon sens admettra que les passions charnelles seront attisées quand les hommes et les femmes étrangers marcheront librement ensemble. Et ces hommes et ces femmes seront la proie de la tentation. Chez certains peuples, il n'est point mal vu qu'un homme et une femme étrangers s'enferment tout seuls dans une maison. Ceci est considéré comme une culture civilisée. La loi de l'islam interdit à cet effet toute pratique qui puisse engendrer ces tentations. L'islam déclare à cet effet que Satan est le troisième compagnon de cet homme et de cette femme étranger. Réfléchissez sur les conséquences malsaines qu'est en train de subir l'Europe en raison de ces pratiques libertines. En certains lieux, d'aucuns mènent une vie dévergondée. Tout cela est le résultat de ces préceptes. Quand on souhaite protéger un dépôt, eh bien, on la surveille. Si l'on n'accorde pas cette protection en croyant que ce sont des gens très respectables, sachez que la destruction guette l'objet en question. Les préceptes de l'islam sont purs. En séparant l'homme et la femme, il les a protégés de toute tentation, de tout impair. il n'a pas rendu la vie de l'homme impossible et difficile à vivre, au point où l'on voit les problèmes domestiques et les suicides que connaissent l'Europe. Le fait que certaines femmes respectables mènent des vies de dévergondées est le résultat d'une permission à regarder librement les femmes qui sont interdites au regard. Le Messie premier, l'Islam, nous explique la norme de la parole dans ces termes. Allah déclare d'enjoindre aux femmes croyantes d'éviter de regarder les hommes qui leur sont interdits et de protéger leurs oreilles de tels hommes, c'est-à-dire de ne pas écouter leur voix lascive et de couvrir leur partie intime et de ne pas dévoiler leur beauté aux hommes étrangers et de se voiler de sorte de couvrir leur poitrine jusqu'à la tête, c'est-à-dire de couvrir le torse, les deux oreilles, la tente et les temples, et de ne pas frapper le sol comme des danseurs. Voilà les moyens de se protéger de tout impair. Certaines femmes disent que lorsqu'elles vont se couvrir le visage avec leur niqab, elles vont abîmer leur maquillage. Comment se voiler en de tels cas? Tout d'abord, il ne faut pas se maquiller dans de tels cas. Le minimum que le Messie premier l'Islam a décrit est que l'on doit laisser à découvert le visage et les lèvres. Les autres parties de la tête doivent être voilées. Si l'on veut se maquiller, bien en ce cas, il faudra couvrir le visage. Elles doivent se demander, ces femmes, si elles souhaitent cacher leur beauté en suivant le commandement d'Allah, ou si elles veulent dévoiler au monde leur beauté et leur maquillage. Selon l'injonction, il est permis de montrer sa beauté à ses proches, parents, à ses frères et sœurs, à son mari, son père, sa mère, ses enfants. Il n'est pas essentiel de porter le voile devant eux. Elles peuvent se présenter maquillées à eux seulement, mais pas aux autres. Ces détails ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Dieu a aussi mentionné tous les proches à qui ces femmes peuvent se présenter. D'ailleurs, il s'agit là de la beauté qui est apparente, c'est-à-dire cela concerne le visage, la taille, leur apparence. Il ne s'agit pas de marcher devant ses proches, devant ses parents, avec des jeans serrés ou avec des blouses ou avec des vêtements qui révèlent les parties du corps. Ces règles de la modestie islamique s'appliquent aussi aux hommes mahram, c'est-à-dire du cercle familial avec qui on ne peut pas se marier, selon la charia. Je voudrais ajouter un autre point concernant les missionnaires et leurs épouses. Ils doivent prendre des grandes précautions concernant leurs vêtements et leur regard. La Jamaat regarde leur exemple. L'épouse d'un missionnaire, d'un murabbi, d'un mubalir est aussi une murabbi. Et la femme d'un missionnaire doit servir de grands exemples dans chaque domaine. Qu'Allah fasse que nos hommes et nos femmes puissent respecter les plus hautes normes de la chasteté et de la pudeur. Et que chacun d'entre nous puisse respecter chaque aspect des préceptes de l'islam.